l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées, qu'on appelle aussi l'ACRIF, déplore que le gouvernement s'en prenne aux personnes handicapées et à leurs proches en coupant ou en sous-investissant dans les programmes qui leur sont destinés. J'en parle avec Pierre Berger, responsable des enjeux à l'Alliance. Bonjour, Monsieur Berger.
Bonjour.
Alors, à quoi ça sert l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées, même si on peut le deviner un peu?
Oui, mais c'est une fédération de fédérations régionales d'organismes de personnes handicapées.
Fédération de fédérations.
Oui, c'est ça. Il y a des regroupements régionaux dans chaque région du Québec. Donc, ce sont des fédérations régionales qui regroupent des organismes de base de personnes handicapées. Et ces regroupements-là sont regroupés sur le plan provincial à la CRIF.
Et vous, vous êtes responsable des enjeux. Ça veut dire quoi exactement? Vous gérez tous les problèmes?
Il y a tellement de problèmes, on ne peut pas tous les gérer, là, mais disons...
Un à la fois.
On documente un certain nombre de choses et on prépare des réactions, on fait des avis au gouvernement pour essayer de modifier les choses, améliorer la situation des personnes handicapées.
Vous avez participé à la planification de programmes gouvernementaux, développé des politiques. Parlez-nous un petit peu de votre expérience là, avec les organismes de défense des droits des personnes qui sont en général défavorisées. Là. Qu'est-ce que vous en avez retiré?
Vous parlez de mon expérience personnelle?
Oui, votre expérience avant de...
Mon expérience personnelle est très longue. Là.
Moi, je suis personnelle professionnelle, mais personnelle
oui.
aussi, oui.
Oui, moi, je suis parent d'un enfant handicapé, d'un homme handicapé. Donc, c'est sûr que je me suis intéressé à ce milieu-là à la naissance de mon enfant. Et par la suite, je me suis impliqué dans des associations.
Vous êtes un fonctionnaire de métier?
Au fil du temps, oui, je suis devenu fonctionnaire.
Ouais.
J'ai travaillé notamment à l'Office des personnes handicapées du Québec où j'étais directeur de l'intervention nationale. Donc, je m'occupais de la cohésion, de la cohérence de l'intervention gouvernementale par rapport aux personnes handicapées. Et ce qui fait que je suis bien au courant des dossiers de personnes handicapées. Après ça, je suis passé au curateur public, au protecteur du citoyen et ainsi qu'au ministère de l'Emploi. Donc, ce sont des choses que je suis en milieu connu. Là.
Oui, oui, une feuille de route riche qui vous a apporté toutes sortes d'expériences et toutes sortes de connaissances. Et c'est pourquoi vous êtes devenu le responsable des enjeux. Et quelles actions récentes du gouvernement affectent les programmes destinés aux personnes handicapées et leurs proches?
L'été dernier, on a appris que la mesure qui s'appelle contrat d'intégration au travail, qui est une mesure d'adaptation pour que la personne qui est non compétitive au niveau de sa production
parce
qu'elle
a des limitations
à cause de ses incapacités. Mm-hmm. Donc, on compense la partie non compétitive de son travail.
Ouais.
Et là, le gouvernement, subissant des coupures dans les transferts des fonds fédéraux, ont décidé de couper à certaines places. Ils ont dit, on va couper dans les contrats d'intégration au travail, ce qui est une espèce de non-sens. Donc, il y a eu une coupure de 5 %. Les subventions continuent. On subventionne un même nombre de personnes, mais on a réduit le montant de l'aide. C'est comme si l'adaptation n'était pas complète. Par exemple, si c'était au lieu d'une adaptation de la compensation de la partie non compétitive du travail, c'était, par exemple, avoir une table adaptée à une certaine hauteur, est-ce qu'on couperait une patte à la table? C'est mm-hmm. impensable. Mais là, c'est comme si on faisait ça. Là. Donc, c'est sûr que c'est une situation déplorable qu'on a dénoncé, décrié.
Est-ce que ça a été annoncé, ça?
Oui, ça a été... pas largement. Le gouvernement ne s'est pas vanté de ça.
Non,
mais
c'est sûr.
Ça a été diffusé. Oui, on l'a su de différentes sources.
Puis il y a d'autres programmes aussi qui ont été touchés.
Oui, bien c'est ça. C'est que au cours des dernières semaines, on a appris, par exemple, que certaines personnes, à cause du fonctionnement du financement des agences, mais c'est les centres intégrés de santé et services sociaux.
Ouais, ouais.
Ils ont des dépenses qui sont fixes.
Les CIUSSS?
Oui, les CIUSSS et les CIUSSS.
Ouais.
Il y a des dépenses qui sont non compressibles, comme les salaires. Bon,
mm-hmm.
Ce qui fait qu'ils ont décidé de couper dans l'aide à domicile, mais l'aide à domicile uniquement de ceux qui bénéficiaient du chèque emploi-service, parce que c'est pas des employés des établissements. Donc, c'était plus facile d'aller couper là.
Ah oui.
Bon, c'est sûr que là, il y a eu une certaine montée de bouclier. Puis vendredi dernier, là, le ministre a rappelé l'agence... L'Agence Santé
ouais,
Québec.
Ouais.
Donc, c'est parce que maintenant, c'est un seul établissement
oui,
pour
oui,
tout le Québec.
Oui, c'est vrai. Il faut s'en rappeler.
Donc, l'Agence Santé Québec a reçu des directives du ministère à l'effet de ne pas toucher au chèque emploi-service.
Bon.
D'ailleurs, ça crée une iniquité entre les personnes handicapées, mais aussi une iniquité tout court parce que Vous savez, l'aide à domicile, c'est les besoins de base. Hein. C'est dans la pyramide de Maslow, là, c'est en bas. Donc, c'est essentiel. Si ça, c'est pas satisfait, on peut pas penser intégration sociale. On peut pas penser... Ouais.
Mais pourquoi on fait ça si ce sont des besoins de base? Pourquoi on coupe?
Je pense que c'est un manque de jugement de la part des établissements d'avoir fait ça. Là.
Mauvaise
c'est
décision. Est-ce qu'on est revenu sur la décision?
Oui, bien c'est ça. Là, le ministère a demandé à l'Agence Santé Québec de ne pas toucher au chèque emploi-service.
Bon, la demande a été faite.
Donc, ça devrait se rétablir, en tout cas, on le souhaite. Là. Donc, ça date de vendredi dernier. Donc, c'est ce matin que les établissements devront se réajuster. Là. Donc, ça sera à suivre.
Oui, absolument. Et quelles sont les conséquences sur les personnes qui vivent avec un handicap, leurs proches aidants aussi, là, toutes ces coupures-là dans les différents programmes?
Bien, c'est sûr que ça a un impact majeur, mais il y a d'autres choses qui ont été aussi qui a été aussi touchées. Là.
Allez-y.
Oui, c'est ça. Il y a au niveau du soutien aux familles, il y a un nouveau cadre de gestion que le ministère a publié et distribué aux établissements, dans lequel il y a un annexe, qui est un annexe donne les barèmes pour le financement des mesures de répit pour les familles. Donc, les familles reçoivent des allocations. Et les allocations sont de 2,75 $ pour un enfant. Ce qui est essayer de faire regarder un enfant qui a des troubles de comportement.
Ouais.
Et sont de, je me suis, autour de, je pense que c'est 5,75 $ pour l'adulte qui a des troubles graves de comportement.
3 $ de plus.
Oui, c'est ça. Mais ce sont les mêmes barèmes qu'en 1991. Et en 1991, c'était juste en dessous du salaire minimum. Fait que vous vous imaginez, depuis, le coût de la vie a augmenté. Selon les données de la Banque du Canada, on est allé vérifier, c'est le dollar de 1991 vaut 2,33 $ aujourd'hui. Ce qui fait que les familles assument 2,33 fois plus de parts pour pouvoir combler, pour pouvoir s'acheter des services de répit. C'est une espèce d'aberration.
Comme le disait la directrice Isabelle Tremblay.
Le recul est même pire que ça quand on va aborder l'autre sujet. Mais dans ce cadre-là, c'est un peu inacceptable qu'après 33 ans, on fait un nouveau cadre de gestion et on réajuste même pas, on n'en profite même pas pour réajuster des montants qui sont complètement dérisoires et dépassés. Là. Donc, c'est comme si le programme disparaissait. Et pire que ça, c'est qu'on a averti, il y a un courriel qui est parti de certains 6 CIUSSS qu'on a eu copie, peut-être que c'est dans tous les 6 CIUSSS, on ne sait pas, mais de certains 6 CIUSSS qui indiquaient qu'à partir de l'an prochain, certaines familles allaient être coupées parce que...
Allaient être coupées?
Oui, allaient être coupées parce qu'il y avait des maximums de financement et certains établissements avaient décidé, parce que les montants sont dérisoires, de dépasser ces sommes-là. Et là, ils ont averti que... il allait revenir au maximum, il allait appliquer les barèmes là, qui sont prévus. Ce qui fait qu'il y a des familles, dès le 1er avril prochain, vont avoir des coupures de financement, d'un financement qui est déjà dérisoire, là, ce qui est un peu ridicule. Mm-hmm.
Donc, c'est assez décourageant.
Ben oui, c'est assez décourageant. Puis là, je vais arriver à l'autre sujet qui est encore plus décourageant.
Oui, c'est le sujet qui concerne la nouvelle politique nationale.
Oui, c'est ça. Il y a une
Les soins et les services de soutien à domicile.
Il y a une consultation qui est amorcée par le ministère là-dessus. Et vous savez, moi je suis dans ce milieu-là depuis longtemps, puis j'ai pu suivre l'évolution. Hein. L'Office des personnes handicapées du Québec...
Est-ce qu'il y a eu une vraie évolution?
Oui, je vais... Oui, c'est ça.
Ça avance puis ça recule.
Il y a eu des choses, mais là, ça recule.
Oui, oui. Comme puis, le dit justement la directrice de l'Alliance, Isabelle Tremblay, on assiste ici à un recul de 35 ans au regard d'une plus grande équité nécessaire à une société plus inclusive des personnes handicapées. Ce sont ses propos.
Et voilà. Pourquoi le 35 ans? C'est qu'en 1988, il y a eu une décision gouvernementale très importante. C'est que l'Office des personnes handicapées, quand il a été créé en 1979, avait un mandat de développer des programmes parce que le Québec était très en retard au niveau de l'intégration sociale des personnes handicapées. Il manquait de mesures. Et il y avait un programme d'aide matérielle, donc il développait des mesures, dont le maintien à domicile. Et en 1988, le gouvernement avait décidé bien, il faudrait peut-être retourner ces programmes-là vers les ministères qui, normalement, ont ces responsabilités-là. Pour amorcer les transferts, il y avait quand même des discussions parce que l'Office finançait selon les besoins sans égard aux revenus de la famille et de la personne.
Tout le monde avait le même montant.
Tout le monde avait le même montant, peu importe le revenu, parce que c'est une compensation de l'incapacité. Donc, oui. c'est la compensation des coûts supplémentaires liés aux incapacités des
le
personnes.
Le calcul n'est pas fait à partir du revenu de chaque personne
voilà, en situation de handicap. Parce que ce n'est pas parce que vous avez un revenu, vous êtes moins handicapé. Donc, c'est une mesure de compensation. Donc, la compensation, oui. Elle doit être couverte. Et le gouvernement, pour faire avaler la pilule des transferts, avait dit, nous acceptons le principe de la compensation des coûts supplémentaires sans égard aux revenus de la personne et de la famille.
OK. Et ça a changé.
Et là, dans la consultation, on remet en question ce principe-là.
Ah, on remet en question.
Oui. Donc, on propose d'examiner un financement selon les revenus des personnes en se basant sur un sondage qui avait été fait par la commissaire à la santé et au bien-être.
Mm-hmm.
Un sondage qu'ils avaient fait auprès d'une population de 55 à 64 ans. Et il avait posé cette question-là.
Des personnes en situation de handicap?
Ce n'étaient pas des personnes en situation de handicap. Donc, mais ces personnes-là ont dit effectivement peut-être qu'on devrait tenir compte du revenu. Dans le maintien à domicile, il y a déjà une place qu'on tient compte du revenu. C'est pour des personnes qui n'ont pas des incapacités importantes et qui profitent du crédit d'impôt, le programme d'exonération financière, là, je ne me souviens plus du nom complet, là, le PEFSAD.
Donc, bon, vous l'avez. L'acronyme, en tout cas.
J'ai l'acronyme. C'est ça. Donc, dans ce cadre-là, c'est un crédit d'impôt. Oui, crédit d'impôt ne tient pas tout à fait compte du revenu, mais il y a des mesures qui peuvent tenir compte du revenu. Mais ça concerne des personnes qui sont pas lourdes, qui n'ont pas d'incapacité importante. C'est une personne âgée qui, par exemple, ça ne tente plus de déneiger ses escaliers d'hiver. Donc, on va le compenser via ce crédit d'impôt-là pour pouvoir voir à ça. Je donne un exemple comme ça, là. Ce qui est très loin d'une personne qui a vécu toute sa vie en
fauteuil roulant et qui est dépendante de tout le monde.
C'est ça, qui a besoin de quelqu'un pour se lever, qui a des besoins essentiels comme ça. Et là, tenir compte du revenu, ça devient un non-sens parce que ce sont des coûts supplémentaires qui sont vraiment liés aux incapacités de la personne. Là. Donc, c'est là qu'il y a une espèce d'aberration. Les gens qui ont répondu au sondage, ce n'étaient pas des gens qui connaissaient cette situation-là. Ils ne connaissaient pas non plus la décision de 88 et le contexte dans lequel tout ça s'est fait.
Il
n'y
avait pas
fait,
toutes les informations en main, là.
Non, c'est ça. Et c'est en se basant là-dessus que le ministère a réagi.
Interroge.
Et nous avons parlé à la commissaire à la santé et au bien-être jeudi dernier et elle nous disait que l'intention, c'était absolument pas de toucher aux personnes handicapées dans ce cadre-là. Bon. Ça concernait plus les situations de personnes qui avaient des incapacités.
La personne qui avait l'eau d'eau qui ne veut plus pelleter.
Oui,
OK.
C'est ça.
Bon, ça, c'est bien, ça?
Oui, c'est ça. Donc, j'imagine qu'elle va réagir auprès du ministère. Là, donc,
à suivre, encore une fois.
Oui.
Alors, comment on peut comprendre la prise de ces mesures de la part du gouvernement? Là, au moins, vous réagissez. Il y a des gens qui disent au gouvernement ça n'a pas de bon sens, là, ce genre de décision-là. Puis au moins, on réfléchit, puis quelquefois, on recule et pour les bonnes raisons. Et ça donne de meilleurs résultats, mais vous parliez de manque de jugement tantôt, de manque d'informations.
Ce sont des mauvaises décisions.
Manque de culture.
Oui, c'est ça. Puis c'est comme si on avait oublié le principe que les coûts supplémentaires et les incapacités doivent être compensés. Et c'est comme un contrat de société. Et c'est comme si on le remettait en question de façon tout à fait innocente. Pour des raisons budgétaires essentiellement, parce que, c'est que l'état des finances publiques est un peu plus difficile et qu'il y a un vieillissement de la population, donc il va y avoir des coûts plus élevés en soutien à domicile, donc on veut peut-être toucher à ces programmes-là aussi, là, ce qui est inquiétant. Là.
Oui. Les mesures idéales pour que la personne handicapée vive bien et dignement, ce seraient lesquelles?
Mais c'est selon chaque besoin de chaque personne. Donc, c'est une personne qui a des incapacités qui l'empêchent de réaliser certaines tâches, ne serait-ce que les activités de la vie quotidienne ou les activités de la vie domestique, ça, c'est en matière de soutien à domicile, ça mérite d'être compensé. Là. Et c'est un non-sens quand que le service est censé être garanti d'aller couper ces services-là. Là.
Toujours une question d'argent, puis aussi de personnel, des gens qui sont qualifiés aussi pour prendre soin de ces personnes qui sont handicapées.
Oui, c'est une question d'argent, mais aussi de priorité gouvernementale. Là. Je pense que le gouvernement devrait remettre ses priorités à bonne place là-dessus, là, parce que c'est quand même inquiétant qu'on s'en prenne aux personnes parfois les plus vulnérables. Puis,
encore là, il y a du travail d'éducation, de sensibilisation à faire auprès des gens qui gouvernent. De nos dirigeants et dirigeantes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour appuyer l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées?
Bien, ce serait bien d'en parler, que chacun en parle à son député pour lui rappeler qu'il y a quand même des choses, des principes à respecter et qu'on ne doit pas s'en prendre aux personnes qui ont des incapacités.
Alors, Pierre Berger, responsable des enjeux, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable des enjeux à la CRIF. Merci d'être passé dans nos studios, puis bonne chance pour la suite. On vous réinvitera certainement.
Bien, merci beaucoup.